Les marchés financiers, quand le cœur de l'économie s'emballe. Nous y voilà enfin. Maintenant, vous savez que la monnaie est créée par les banques de dépôt, via des crédits accordés aux agents économiques, particuliers, entreprises et États. Que le remboursement de ces crédits détruit les promesses qui nous servent de monnaie, la monnaie scripturale, inscrite sur nos comptes. Que toutes les dettes et remboursements associés à des emprunts non bancaires ne permettent rien de plus que la circulation de ces promesses. Que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Que les déficits monétaires des uns sont les bénéfices monétaires des autres. Que ce qui compte, ce sont les richesses réelles que nous produisons. Que le PIB est supposé mesurer ces richesses, mais qu'il n'y parvient pas bien du tout. Que les crises qui ralentissent l'activité économique sont inévitables quand il s'agit d'un manque de flux physique, manque d'énergie ou de ressources, mais qu'elles sont au contraire psychologiques ou liées à une mauvaise répartition des revenus quand elles touchent la demande, ralentissement des dépenses. Que les analyses micro qui nous semblent si évidentes ne sont pas généralisables et qu'elles nous emmènent droit dans le mur si nous basons sur elles nos décisions macro. Que l'inflation est beaucoup moins grave que la déflation. Que la création monétaire n'est qu'un des nombreux facteurs qui peuvent causer l'inflation. Et enfin, qu'il existe un marché du neuf, créateur de richesses, et un marché de l'occasion, spéculatif, dans lequel on trouve d'obscurs produits financiers qui semblent causer de nombreux maux. C'est le moment de comprendre comment fonctionnent ces marchés financiers. Obligations et actions, les deux stars des marchés. Comme nous l'avons déjà expliqué, les marchés financiers sont un intermédiaire entre l'épargne des agents économiques, particuliers, entreprises, États, et le financement des dépenses d'autres agents économiques. Le lien entre la monnaie des uns, les promesses de mise à disposition de billets, et les projets des autres s'effectue via l'émission de produits financiers. Cela peut sembler flou pour le moment, mais tout va s'éclaircir. Il existe des dizaines de produits financiers différents. Cela dit, tous entrent dans trois catégories. Les obligations, qui sont des titres de dette, les actions, qui sont des titres de propriété, les produits dérivés, qui sont des paris sur un événement susceptible d'arriver ou pas à une action, une obligation, ou tout un tas d'autres machins, nous y reviendrons un peu plus tard. Pas très clair ? Commençons par décrire ce que sont les actions et les obligations. Nous traiterons des produits dérivés un peu plus tard. Les obligations, les emprunts des entreprises et des États. Les obligations sont des contrats de prêt. Un État ou une entreprise signe un document, un contrat, sur lequel est inscrit le montant emprunté, donc à rembourser, le principal, la date de remboursement ou date de maturité de l'obligation, le taux d'intérêt à verser chaque année, on l'appelle le coupon, et la quantité d'obligations proposées à la vente. Le malin principe du découpage d'un prêt en obligations. Prenons un exemple. L'État souhaite se financer à hauteur de 500 millions d'euros, principal, sur une durée de 10 ans, maturité, et pour un intérêt de 3%, coupon. Celui-ci va commencer par découper cette somme en 5000 tranches de 100 000 euros chacune. Ce montant peut être différent en fonction du type de client que souhaite toucher l'émetteur. Pourquoi ? Parce que le but des marchés financiers n'est pas de connecter un emprunteur avec un seul épargnant, mais plutôt avec des centaines, voire des milliers d'épargnants. C'est dans la mutualisation que réside la puissance de financement des marchés financiers. Il existe donc 5000 obligations, 5000 contrats de prêt, émises par l'État. Chacune d'entre elles porte le même principal, somme empruntée, de 100 000 euros, le même coupon, taux d'intérêt, de 3%, et la même maturité à 10 ans, échéance de remboursement. Cela signifie que n'importe qui ayant accès aux marchés financiers peut acheter une ou plusieurs obligations, à 100 000 euros l'unité, qui donneront toutes le droit à un remboursement de 100 000 euros dans 10 ans et au paiement d'un coupon de 3%, donc 3 000 euros, pas de quoi, tous les ans pendant 10 ans. Notez que, Contrairement à votre crédit bancaire classique, l'émetteur des obligations ne cumule pas le remboursement du principal et le paiement des intérêts. Autrement dit, dans mon exemple, l'État n'a besoin de payer chaque année que les 3% d'intérêt. Les 100 000 euros sont remboursés à l'échéance, en une seule fois. Ce système permet à la dette d'être refinancée plus facilement. Une fois la date d'échéance des premières obligations atteinte, il suffit d'émettre de nouvelles obligations pour un montant similaire, 500 millions d'euros, puis de rembourser les porteurs des premières avec le montant collecté par l'émission des secondes. Cela revient à emprunter à Paul pour rembourser Jacques. Le refinancement, un sacré bon plan. Si cette méthode de refinancement est utilisée par les États pour repousser continuellement leurs échéances de remboursement, celle-ci est également couramment utilisée par les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que si vous pouvez utiliser 500 millions d'euros qui vous coûtent 3% par an pour acheter des machines qui vous rapportent 5%, alors la monnaie que vous allez gagner sera mieux utilisée à acheter toujours plus de ces nouvelles machines plutôt qu'à rembourser une dette qui ne vous en coûte que 3%. Le véritable raisonnement est un poil plus complexe, mais l'idée reste la même. Qu'est-ce qu'une émission d'obligation réussie ? On parle d'émission car les 5000 obligations ne seront peut-être pas toutes achetées. L'État fixe une période durant laquelle les agents économiques ayant accès aux marchés financiers, que nous allons appeler investisseurs, peuvent souscrire à l'émission, se porter acheteurs des obligations. Durant cette période et en fonction du type d'émission, obligation d'État ou d'entreprise, il est possible que le coupon ou que le montant emprunté soit modifié en fonction de la demande. Plus cette dernière est forte, plus le coupon peut baisser et le montant emprunté augmenter, et inversement. Une fois la période de souscription terminée, les obligations sont officiellement émises. Leur nombre ainsi que le taux d'intérêt qu'elles portent sont gravés dans le marbre, enfin, inscrits une bonne fois pour toutes sur le contrat sans aucune possibilité de modification. Une émission réussie du point de vue de l'État correspond à une situation dans laquelle les 5000 obligations ont trouvé preneur, 500 millions d'euros ont été versés sur le compte de l'État, et où le taux d'intérêt obtenu est inférieur à celui initialement prévu. En revanche, une situation d'échec pourrait par exemple correspondre à une émission de 4000 obligations seulement, 400 millions d'euros versés sur le compte de l'État, et un taux obtenu supérieur aux 3% anticipés. La valeur des obligations. Une fois les obligations émises, les investisseurs sont libres de les vendre à d'autres investisseurs. En effet, la date à laquelle les obligations sont acquises n'a aucune importance. C'est bien le propriétaire de l'obligation au moment du versement du coupon qui voit 3000 euros ajoutés sur son compte. Tout comme c'est bien le propriétaire de l'obligation au moment du remboursement qui voit 100 000 euros ajoutés sur son compte. Une fois émise, la valeur d'échange d'une obligation peut fluctuer en fonction de la confiance que les investisseurs accordent à l'émetteur. On mesure ainsi la valeur d'une obligation en pourcentage. Ainsi, si les obligations de mon exemple valent 95%, cela signifie qu'un investisseur achetant une obligation à un autre investisseur devra payer 95% fois 100 000 euros égale 95 000 euros. Attention, cela ne signifie pas que l'État ne devra rembourser que 95 000 euros. L'État s'est engagé à rembourser 100 000 euros et doit tout faire pour y parvenir. Cela dit, parce que les investisseurs ont ici moins confiance en lui qu'au moment de l'émission, ils estiment que cette promesse de remboursement de 100 000 euros ne vaut que 95 000 euros. Notez qu'une confiance accrue des investisseurs envers l'État pourrait tout aussi bien pousser le prix des obligations à 110%. 110% fois 100 000 euros égale 110 000 euros. Le règne du doigt mouillé, guesstimate, pour faire plus classe. Les raisons qui poussent les investisseurs à avoir plus ou moins confiance en un émetteur, un État ou une entreprise, sont parfois techniques, parfois triviales, mais elles ne sont jamais parfaitement connues. La question que les investisseurs se posent est la suivante. Quelle est la probabilité que je me fasse rembourser? Plus ils estiment cette probabilité élevée par rapport au moment de l'émission, plus le prix des obligations monte, et inversement. La valeur d'une obligation, au-dessus ou en dessous de 100%, donne donc une information sur la perception du risque de non-remboursement actuel par rapport au risque initial. Mais comment ce risque est-il estimé? Quelle est la formule mathématique utilisée? Cette formule ou méthode n'existe tout simplement pas. Après tout, personne ne peut prédire l'avenir, et le remboursement d'un émetteur ne dépend pas que de sa propre situation, mais aussi de celle de ses fournisseurs et de ses clients, situation qui dépend elle-même de celle de leurs fournisseurs et clients respectifs. C'est le coup des poupées russes, quoi. Le mythe rassurant de l'analyse crédit. Le spectre d'analyse du risque de non-remboursement d'un État ou d'une entreprise, on parle d'analyse crédit, tend vers l'infini. De la culture de l'entreprise au profil psychologique des dirigeants, en passant par toutes les données qui ne figurent pas dans les états financiers, la liste des informations pertinentes mais non observables, mesurables ou quantifiables, est sans fin. Sans compter que le point de départ de l'estimation du risque de non-remboursement d'une entreprise ou d'un État passe toujours par une comparaison avec les taux obtenus par ses pairs. On se demande quels taux d'intérêt ont été accordés à des entreprises ou à des États comparables pour disposer d'un point de référence. Sauf que ce n'est pas parce que toutes les analyses crédit s'auto-référencent les unes les autres qu'elles sont pertinentes. Ainsi, quand bien même les investisseurs réalisent des analyses crédit parfois plus fouillées, leurs conclusions relèvent toujours plus ou moins du dogme. Bah oui, on fait tout le temps comme ça. Et d'un mélange d'intuition et d'instinct. Bref, la méthode qui permet d'évaluer le prix à payer pour telle ou telle obligation repose sur un mélange de calculs plus ou moins pertinents, d'idéologie et d'instinct. En finance, on aime bien dire qu'on utilise la méthode du guesstimate, un terme qui sonne mieux en anglais, mais qui se traduit par la méthode du doigt mouillé. Les agences de notation, le grand jury de la finance. Malgré tout ce que l'on vient d'expliquer, le risque de non-remboursement associé aux obligations nécessite tout de même un travail d'analyse financière, analyse crédit, qui est relativement standardisé. En effet, si l'analyse financière qui permet de définir le potentiel de création de richesse d'une entreprise, qui lui-même doit permettre de définir le prix de son action, est perçue comme relevant davantage d'un point de vue qui peut varier du tout au tout selon les analystes, le risque de non-remboursement, lui, est supposé pouvoir être estimé de manière plus scientifique par le calcul de certains ratios bien choisis. Bien sûr, la standardisation de l'analyse crédit ne signifie pas qu'elle est pertinente, mais il est vrai que cette dernière est plus restreinte dans les questions qu'elle se pose que l'analyse action. On dit aussi analyse equity quand on veut se la raconter. Autant on peut imaginer tout un spectre de possibilités quant au potentiel d'une entreprise, autant la réponse à la question d'un analyste crédit est beaucoup plus cadrée. Quelles sont les chances pour que l'entreprise ou l'État ne rembourse pas? C'est ainsi que, parmi les nombreuses entreprises dont le seul rôle est de vendre aux acteurs des marchés financiers des analyses financières, equity ou crédit, certaines de celles qui s'occupent d'analyse crédit ont été promues au rang d'agences de notation. Même s'il en existe des dizaines, vous n'avez besoin d'en connaître que deux. Il s'agit de Standard & Poor's, S&P pour les intimes, et Moody's. Certains ajoutent Fitch à la liste, mais celle-ci demeure loin derrière ses consoeurs, qui se partagent à elle seule 78% du marché de la notation crédit dans le monde. De quoi s'agit-il ? Dès le début du XXe siècle, est entrée en vigueur la méthode de l'évaluation du risque de non-remboursement des émetteurs d'obligations, suivant une échelle de notation. Plus le risque est perçu comme élevé, plus la note se rapproche du terrible C, tandis que le fameux triple A, récompense les meilleurs élèves. En réalité, mis à part les deux exceptions que sont Microsoft et Johnson & Johnson, le AAA est réservé aux États, même si depuis la crise de 2008, nombreux sont ceux, France et États-Unis compris, qui ne disposent plus de cette note maximale. Aujourd'hui, nombreux sont les fonds d'investissement qui ne peuvent légalement pas acheter d'obligations tant que Moody's ou S&P n'a pas fourni de notes. Certains fonds d'investissement, ceux dont l'aversion au risque est la plus importante et dont la quantité d'épargne sous gestion est aussi maximale, vont même jusqu'à garantir aux épargnants qui leur font confiance qu'ils ne détiendront jamais d'obligations dont la note serait inférieure à BBB. En effet, ce seuil définit la limite entre les obligations dites « investment grade », dignes de confiance, dont on considère que le risque de non-remboursement est faible, et les obligations « high yield », haut rendement, dont les rendements sont certes supérieurs, mais dont le risque de défaut est significatif. On comprend alors pourquoi n'importe quel émetteur, entreprise ou État, se trouve dans une situation particulièrement précaire quand la note de ses obligations, fixée à BBB, se positionne dangereusement à un cran de ne plus être éligible à la détention par les plus grands fonds d'investissement des marchés financiers. C'est ce qui est arrivé à la Grèce en 2010, quand S&P et Moody's ont fait basculer sa note de crédit de BBB à BB. Agence de notation et bénéfices, un douteux mélange des genres. Le rôle des agences de notation dans la crise de 2008 est significatif car les produits financiers obligataires subprime, qui se sont avérés être si dangereux, avaient souvent été notés AAA. Cela a levé le voile sur la méthode utilisée par ces entreprises privées pour faire des bénéfices. En effet, ce sont les entreprises et les États, emprunteurs, qui doivent payer pour que les agences de notation leur fournissent une note. Dans le cadre des obligations subprime, nous parlerons de leur fonctionnement un peu plus tard, les banques d'investissement qui les ont émises sont venues trouver les agences de notation pour qu'elles notent ces produits obligataires ultra complexes. Il semble bien que, n'ayant jamais vraiment vu ce genre de produits obligataires auparavant, les agences de notation se sont contentées de croire sur parole les banques d'investissement quand celles-ci ont affirmé que ces produits subprime étaient dignes de confiance. Il faut également bien comprendre que les notes attribuées par Moody's et S&P ont un impact direct sur le taux d'intérêt qu'un émetteur d'obligations, État ou entreprise, pourra obtenir sur les marchés financiers. Même les fonds d'investissement qui n'ont aucune contrainte d'achat relative à la note obtenue utilisent cette dernière pour estimer le risque de non-remboursement et donc le taux d'intérêt. Autrement dit, une entreprise ou un État dont la note est abaissée, on dit « downgradé » en franglais financier, verra nécessairement le taux d'intérêt appliqué à ses futures obligations augmenter et la valeur de ses obligations déjà émises diminuer. Pour conclure, les obligations sont des contrats de prêt découpés en morceaux, ce qui permet à de multiples investisseurs de mettre en commun leurs ressources pour financer un unique emprunt. Les entreprises et les États sont capables d'émettre des obligations et le taux d'intérêt qu'ils obtiennent, appelé coupon, est directement corrélé au risque de non-remboursement de ces émetteurs. Plus les investisseurs ont confiance, plus le taux d'intérêt négocié au moment de l'émission a tendance à être bas. Une fois les obligations émises, la confiance des investisseurs dans le remboursement futur de l'emprunteur se lie dans la valeur d'échange de l'obligation. Plus celle-ci descend en dessous du seuil de 100%, plus la confiance des investisseurs se détériore et inversement. L'estimation du risque de non-remboursement passe par une analyse crédit qui, même si elle est plus standardisée et cadrée qu'une analyse equity, reste très arbitraire et relève énormément du guesstimate. Les agences de notation, chargées de donner une note au risque de non-remboursement des émetteurs qui le souhaitent et qui payent pour ce service, dont les deux plus importantes sont les entreprises américaines Moody's et S&P, sont les plus influentes des marchés financiers en ce qui concerne les analyses crédit.